Bonjour à toutes, bonjour à tous, Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio FM 98 ou 98.fr. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous recevons Jean-Pierre Huard de l'entreprise Impression Système Bureautique, ISB, Stéphane Arnoux de l'association CRC, le club pour la réduction des coûts, et David Devez de la société DC Coaching, coach formateur. Nous allons commencer avec Jean-Pierre Huard d'ISB. Donc vous dirigez ISB depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre société?
Oui, bonjour. Donc Jean-Pierre Huard. Donc je dirige ISB depuis 2012. La société a été créée en 2005. Alors au niveau de mon parcours, en fait, à l'origine, j'ai une formation de brevet de technicien en télécom. Et chose que je n'ai jamais suivie en termes de métier, d'ailleurs. j'ai commencé comme technicien informatique dans une petite structure dans le 91. Après, je suis passé technicien sur matériel bureautique de la société Minolta France, qui était à Carrière-sur-Seine. Après, je suis passé commercial de grand compte. Et j'ai quitté le groupe avant la fusion Konica-Minolta qui a eu lieu dans les années 2000. Après, j'ai fait diverses entreprises et avec d'anciens confrères de Minolta, nous avons décidé en 2005 de créer ISB, voilà, à Pontoise. Au fil du temps, les choses ont évolué. En 2012, mon dernier associé est parti à la retraite. Et de ce fait, j'ai eu l'obligation, on va dire, de reprendre la tête de l'entreprise, que je n'avais pas prévu initialement. Mais voilà, ça s'est fait
naturellement.
Naturellement, mais très rapidement. Donc aujourd'hui, on est une petite structure à taille humaine. On est en moyenne 7 salariés au niveau de la structure. Nos domaines de prédilection, en fait, nous sommes spécialisés dans l'équipement à destination des TPE et PME dans l'équipement bureautique. Donc à ce titre, des solutions d'impression, des solutions de dématérialisation. Nous sommes concessionnaires Konica, Minolta, Develop et Kyocera au niveau des matériels d'impression. Gros projet depuis avant Covid, mais de plus en plus, des solutions de dématérialisation. Nous avons deux partenaires français de préférence, hein, parce qu'on n'est pas chauvin, mais bon, au niveau RGPD, c'est quand même mieux de sécuriser les documents numériques en France.
Alors, sur cette partie-là, bien spécifiquement, est-ce que vous pouvez développer un peu plus les solutions en matière de dématérialisation? On sait qu'il va y avoir il y a déjà des textes de loi avec des contraintes légales. Donc revenir un petit peu sur cet aspect-là, à la fois à travers les règles qui sont imposées, les textes, et les solutions que vous pouvez apporter.
Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'obligations, enfin de plus en plus d'obligations au titre de la dématérialisation. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé depuis entre autres le Covid. Et le gouvernement accentue un petit peu la pression aux entreprises, puisqu'en 2024, nous aurons obligation de dématérialiser tout ce qui est facturation à destination de nos clients. Donc on n'aura plus de documents papier. Hein. Même une petite TPE de personnes sera obligée d'envoyer de manière numérique des factures à ses clients.
Mais donc, c'est pas simplement je scanne ma facture
et j'envoie ma facture.
Hein. Il y a des contraintes.
Ouais, il y a des contraintes techniques. Il y a des formats qui seront obligatoires. Alors, différents formats. Le plus courant qui commence à s'imposer, ça va être la facture X. Voilà. En fait, c'est un document numérique type PDF, mais à l'intérieur, il y a un type de code qui va permettre à l'administration, entre autres, bien sûr, de récupérer les informations et de contrôler la qualité, enfin la véracité des factures. Voilà. Bon, c'est un outil de contrôle, mais aussi un outil pour faciliter les échanges entre sociétés privées et puis surtout le public. Sachant que pour le public, on est déjà obligé de dématérialiser depuis quelques années via le portail Corus. Donc c'est quelque chose qui va devenir obligatoire pour toutes les entreprises. Donc à ce titre, nous travaillons, comme je vous le disais, avec deux éditeurs français qui travaillent des data centers français. Donc les documents restent en France. Ça, c'est très important parce que on a tous un compte iCloud, Dropbox ou autre, ou Gmail. Mais bon, on a tellement entendu de choses sur les documents qu'ils étaient consultés par des gens qui n'avaient pas à le faire. Donc on voit ça tous les jours. Donc nous avons privilégié deux partenaires français. Alors, il n'y a pas qu'un intérêt, parce que quand on parle de dématérialisation à des entreprises, tout de suite, pour eux, ils imaginent un coût. Une obligation est donc un coût, mais il faut pas le voir comme ça, parce que ce qu'ils ne voient pas, c'est les coûts cachés d'un traitement qu'on a aujourd'hui sur une facture fournisseur ou une facture client. Alors il y a des rapports qui ont été faits qui sont visibles sur le site des gouvernements concernant le coût de traitement d'une facture papier. Aujourd'hui, une facture papier, ça coûte en moyenne 13 €, c'est-à-dire de la réception du traitement au règlement de la facture. Donc tout ça, vous voyez, 13 € d'une facture, une entreprise qui va gérer 100 factures par mois, ça commence à faire un petit budget. Mais ça, on s'en rend pas compte, puisque c'est quelque chose que l'on fait tous les jours.
C'est ce qu'on appelle les coûts cachés.
C'est les coûts cachés, voilà. Et pour un service comptable, ça représente en moyenne, pour une PME, en moyenne 20 heures par semaine pour traiter des factures fournisseurs. Donc on peut aller avoir ce discours pour les factures clients, hein. En moyenne c'est 3 € pour le traitement d'une facture papier, bon, ça va disparaître. Mais et en plus on a une obligation de conservation de 10 ans, alors qu'une facture dématérialisée dans un archivage bien ciblé à vocation probatoire, c'est-à-dire qui sera opposable à l'administration en cas de contrôle, on va gagner de l'espace, on va gagner du temps, hein. On va gagner en moyenne 1h30 par jour de traitement de facture client. Oui, donc c'est quand même des petites choses qui vont justifier qu'on investisse 100, 150, 200 € en fonction de la structure dans une solution dématérialisée qui va vous permettre d'éviter d'avoir des armoires pour stocker vos papiers, qui va vous garantir une sécurité de vos documents, hein, parce que dans data center, pour certains c'est Orange, pour d'autres c'est OVH, avec réplication dans des data centers partout sur le territoire. Donc vos documents sont sécurisés aux normes françaises, NF, et vous avez une garantie de les retrouver quelque
part. Au niveau de l'archivage probatoire, donc qui est la forme de preuve opposable à l'administration, il y a des degrés de sécurité ou
non
ou,
c'est une norme
c'est général. Vous savez, je vous pose la question en pensant plus au degré probatoire par rapport à des signatures électroniques, par exemple. Mm-hmm. Où non. Là, il y a différents niveaux de.
Oui, il y a différents niveaux, mais il y a une norme en fait qui a été établie. Pour en fait les numéros quand ils sont archivés de manière à vocation probatoire, ils ont une signature numérique. Voilà, il y a un certificat qui va aller avec le document et qui est inaltérable. Alors, théoriquement, bien sûr, parce que bon, aujourd'hui, on se rend compte que des TPE, des PME, des grands groupes se font pirater. On peut pas garantir à 100% que ça n'existera pas dans ce domaine-là. Bon, aujourd'hui, en fait, tout document qui va être archivé de manière probatoire va être stocké de manière sécurisée. Et en fait, s'il y a des modifications, je prends un exemple tout bête, vous archivez un bon de livraison qui va avec un bon de commande, il est archivé électroniquement, il y a une signature. Si le document est modifié, il y aura des versions qui vont être créées, mais le document original n'est jamais touché. Donc, ce qui permet de garantir la légalité du document qui a été archivé initialement. Voilà.
D'accord. Mais alors, par exemple, j'émets une facture, je me rends compte qu'il y a une erreur. Avant, je corrigeais ma facture, ouais, ça je faisais annuler remplace, et puis voilà.
Ça n'existe plus depuis quelques temps. Pour les gens, enfin maintenant, il y a une obligation d'avoir un logiciel pour émettre des factures. Avant, on le faisait sous Excel. Mmh. C'était très facile, hein. Je pense à un petit garage, n'importe quelle petite structure le faisait facilement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Vous prenez un coiffeur, il est obligé d'avoir une caisse qui ne peut plus.
Oui, il y a eu les caisses enregistreuses,
hein, voilà. Bon, allez, hop, on gagne un peu de liquide. Bon, bref. Mais là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et par exemple, je prends mon exemple, ça nous arrive d'avoir une facture qu'on est obligé de refaire, enfin de modifier parce que le client souhaite qu'il apparaisse telle ou telle ligne. On ne peut plus modifier cette facture.
On fait un avoir et on refait
faire
une
avoir facture. Et il y a une trace dans la comptabilité qui indique qu'on a modifié, enfin qu'on a fait une nouvelle facture. Donc quand l'administration fiscale nous demande le fichier de notre comptabilité, ils voient qu'il y a eu des modifications et ils peuvent nous demander des comptes, savoir ce qu'on a fait et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, théoriquement, on ne peut plus faire n'importe
donc
quoi.
Donc là, sur cette partie-là, dématérialisation. La date butoir, c'est le 1er janvier 2024.
Alors, c'était 2023, c'est 2024. Bon, est-ce que ça va bouger d'ici là? Moi, ce que je conseille surtout aux entreprises, c'est de ne pas attendre. Parce que chez beaucoup de nos clients, on leur dit dématérialiser. Là, ça commence vraiment à bouger depuis quelques mois. Et l'année prochaine, ça va vraiment beaucoup bouger parce que les gens attendent le dernier moment. Mais c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne stratégie. Parce que, au savoir qu'il y a quand même pas tant d'acteurs que ça sur le marché au niveau de la dématérialisation. Alors, je parle français, je parle aux normes françaises, NF et ainsi de suite. Ce qui veut dire que quand tout le monde va se bousculer dans 6 mois pour se mettre aux normes, il va y avoir un embouteillage. Donc, sera traité en premier.
C'est compliqué de se mettre aux normes, concrètement, une entreprise, une TPE qui décide.
Non, c'est pas compliqué, mais il y a quand même un process qui dure plusieurs mois. Donc, oui, tout à fait. En fonction de ce qu'on veut faire. Après, il y a le côté obligatoire. Maintenant, en dématérialisation, on fait les factures, mais on fait le RH, hein, les bulletins de paye, le courrier entrant. On peut faire beaucoup de choses.
Alors donc, ça, c'est la GED.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la GED.
La gestion électronique des documents.
Tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il va y avoir embouteillage. usages, mais de surcroît, ce qui arrive, on le voit déjà avec l'augmentation des prix, qui dit offre et demande, forcément, quand il y aura plus de demande que d'offres, les prix vont, je pense, de concert, avoir tendance à augmenter. Donc, on va attendre, mais on paiera peut-être plus cher aussi. Donc, il vaut mieux prévoir, commencer à engager la démarche, faire des études avec des partenaires. Nous, on est à votre disposition, enfin, à disposition des entreprises pour ça sur le Val d'Oise, pour commencer son process, faire une étude de ce qu'on a besoin de mettre en place au niveau des matérialisations.
Sur la partie bulletin de salaire, là, il n'y a pas de contrainte particulière légale. C'est simplement un problème d'organisation.
Non, il y a vraiment une contrainte puisque il y a une façon de gérer le bulletin de paye au niveau traitement de l'information puisque c'est confidentiel. Il y a la RGPD qui rentre en cause. Ça implique d'avoir un coffre-fort numérique pour chaque salarié. Donc en fonction des éditeurs, il y a des choses plus ou moins intéressantes. C'est pour ça que nous, on n'est pas marié avec une entité. On va privilégier en fonction de la structure qu'on a en face de nous la solution la plus adaptée au niveau coût et rapport qualité. Mais il y a des obligations légales de traitement de l'information. Est-ce que le salarié n'est pas obligé d'accepter de recevoir la facture en électronique?
Et s'il accepte, bulletin de salaire,
excusez-moi, le bulletin de salaire. Mais s'il accepte, on doit avoir une démarche au niveau de l'entreprise de créer un coffre-fort électronique aux normes NF. Avec une certification qui lui garantit de pouvoir conserver ses bulletins de salaire jusqu'à ses 75 ans ou quelques dizaines d'années, je me rappelle plus encore le nombre exact.
75 ans, ça commence déjà.
Je pense qu'en Allemagne, on va être à la retraite, même si ça bouge. Enfin, je le souhaite en tout cas à tout le monde.
Et par rapport à ça, ce coffre-fort électronique au nom du salarié gère. Enfin, on peut tout mettre dedans, c'est-à-dire les congés, les demandes de congés, etc. Une boîte qui permet d'échanger avec entre le salarié et la direction.
En fait, certains d'entre nous ont déjà un coffre-fort électronique, par exemple pour les clients de la Poste, à la banque postale. Il y a la solution Digipost qui existe depuis quelques années. Un de nos partenaires, justement, est une filiale du groupe Docapost, donc la Poste, et fournit gracieusement un coffre-fort Digipost à chacun des clients qui sera client au niveau des matérialisations. Donc ce Digipost, il existe déjà des solutions qui y intègrent. Par exemple, toute personne qui a un compte Digipost peut automatiquement télécharger ses factures EDF, ses factures téléphone et ainsi de suite. Il y a des partenariats qui sont faits avec différents fournisseurs qui permettent de récupérer tous les documents qu'on veut se conserver. Donc les factures qu'on doit garder 10 ans, enfin pour une entreprise, des choses comme ça. Voilà.
Très bien. On va marquer une première pause et puis on continuera avec vous, Jean-Pierre Huard, après la pause. À tout de suite.
Expectation hanging in the air.
venez d'entendre ABBA, Voulez-vous, donc programmation vintage aujourd'hui, mais grand succès. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Huard de la société ISB, Stéphane Arnoux du club des réductions de coûts et David Devez de DC Coaching. Donc nous continuons avec vous Jean-Pierre Huard. Juste pour conclure sur la partie dématérialisation, vous me disiez que vous aviez une actualité sur le sujet.
Oui, tout à fait. Bah, vu que, comme je disais, on rentre dans le cœur de la demande aujourd'hui. Nous organisons avec nos partenaires différents webinaires. Donc à ce titre, par exemple, demain après-midi, nous organisons un webinaire qui dure 30-45 minutes sur justement la dématérialisation de la facture fournisseur. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, on peut vous fournir le lien pour assister à cette...
Donc le lien, c'est on va sur le site d'ISB.
Où on nous envoie une demande à contact@groupeisb.com et on vous envoie le lien pour vous connecter donc demain vers 14h30 de mémoire. Voilà.
Très bien. On rappellera le lien en fin d'émission pour ceux qui peuvent être intéressés. Donc, c'est dématérialisation, premier métier. Deuxième, tout ce qui tourne autour de la protection contre les cyberattaques.
Oui, tout à fait, parce que bon, là, on est encore plus dans l'actualité, puisque on le voit quotidiennement au niveau de l'actualité des cyberattaques qui touchent différentes institutions ou entreprises privées. Faut savoir que ça touche aussi également les TPE, les PME. Personne n'est à l'abri d'une cyberattaque. Alors ça peut être le simple blocage de site, au vol de données, au cryptage de données. On a un client il y a quelques années qui a été victime d'un virus qui a crypté tout son serveur. C'était une mairie, de surcroît.
Qu'on appelle les ransomware.
Voilà, ransomware, tout à fait. Donc, on se retrouve avec 10 postes complètement verrouillés, avec un serveur complètement crypté et une demande de rançon, bien entendu. Donc, on n'aurait pas eu l'initiative auparavant de mettre en place une solution de sécurité qui permet de garantir la sécurité de ces données. Bah, la commune aurait été un petit peu embêtée pendant quelques temps. Alors, reportez ça sur l'image d'une entreprise. Prenez une TPE qui se fait hacker son informatique, qui se fait crypter ou détruire toutes ces données. Bah, une chance sur deux qu'elle ferme ses portes. Hein, plus de comptabilité, plus de fichiers clients, plus de factures, plus rien. Donc, alors quand on parle de ça, nos clients, oui, encore un coût, une dépense, certes, mais qu'est-ce que, je ne sais pas, moi, je prends un exemple, une petite PME qui va dépenser 250 ou 300 euros par mois pour protéger ses données de manière viable. Par rapport à une attaque où elle va perdre l'intégralité de ses données, est-ce que ça vaut le coup de se priver d'une protection ? Surtout qu'il y a des assurances qui se chiffrent en millions, qui peuvent garantir la pérennité de l'entreprise derrière. Donc à ce titre, nous proposons diverses solutions de sécurité, bien sûr qui vont de la sauvegarde externalisée avec des partenaires privés, mais qui apportent des garanties importantes au niveau français, entre autres. Et nous avons aussi une solution pour les gens qui sont un petit peu réfractaires au cloud, on va dire. C'est une solution de cybersécurité installée dans les locaux des entreprises. Donc c'est une structure informatique qui est réputée inviolable, que l'on va installer chez nos clients, qui va être scellée chez nos clients, et qui est garantie contre toute attaque, qu'elle soit incendie, vol, onde magnétique, cyberattaque. Donc c'est certifié par l'ANSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information. Donc elle répond vraiment aux normes et elle garantit une sauvegarde pérenne de toutes les informations d'entreprise avec différents niveaux. En fait, c'est vraiment un serveur qui va gérer les sauvegardes de l'entreprise en interne et qui va en fait se connecter juste au temps de la sauvegarde, mais après qui est totalement isolé du réseau. Donc quelque chose d'assez innovant, français. Une création française et qui pour une petite entreprise peut être une bonne solution pour garantir la pérennité de ses données.
Mais la sauvegarde en question se fait automatiquement,
oui,
à quelle fréquence, au jour le jour?
Journalière. Enfin, après on le définit, mais en général c'est journalier.
Oui, parce qu'en règle générale, si on est piraté et qu'on perd une semaine de données, ça devient compliqué.
Tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir quand même quelques chiffres, c'est que 54% des entreprises françaises ont été victimes d'une attaque en 2021. Ce qui est quand même énorme. Alors, certaines ne le savent pas, Voilà, parce que y a des attaques, on a quand même quasiment tous des quelques sécurités, un pare-feu, un antivirus, mais on est quand même quotidiennement, nous on le voit, on est quotidiennement attaqué de manière aléatoire par des hackers, soit pour s'amuser, soit pour vraiment vouloir.
Mais ça passe par quel biais alors ?
Souvent Internet, enfin Internet.
C'est alors, à travers le site Internet, c'est
alors, non le site, oui. Alors il y a différents modes d'attaque, on pourrait en parler des heures.
Mais les plus non, courants. Non, mais les grands
ouais,
thèmes.
Les grands thèmes, c'est des hackers qui essaient de rentrer sur votre serveur. Donc ils vont attaquer vos sécurités pour essayer de prendre la main sur votre serveur. Donc si vous n'avez pas de sécurité à jour, voilà, là déjà on est embêté. Après, ce qui arrive le plus fréquemment, c'est la secrétaire qui va ouvrir une photo que en fait c'est une pseudo amie qui lui a envoyé, et à l'intérieur de la photo se cache un virus. Mmh. Et à partir du moment où on va cliquer sur l'image, le virus va se répandre sur le réseau. Et le problème, c'est que les antivirus, quels qu'ils soient, même s'ils sont très performants, c'est l'utilisateur qui a ouvert le document. C'est pas une attaque en fait qui vient d'extérieur, pour eux c'est l'utilisateur. Donc si on n'a pas mis en place des verrouillages, bah le virus va circuler librement jusqu'à ce que l'antivirus le...
En fait, ça a connu une explosion avec le travail à distance. Donc il y a toute la partie télétravail et connexion sur les systèmes des gens qui sont à distance, qui effectivement, si on ne s'est pas organisé en conséquence, créer des vulnérabilités.
Ouais, tout c'est à ça, fait. Hein. Tout à fait. Voilà, le télétravail a accentué ce climat de cyberattaque.
Et ça oblige, quand on fait du télétravail, à avoir des sécurités spécifiques par rapport aux solutions que vous proposez.
Alors, déjà, il y a des choses à mettre en place. Nous, par exemple, moi, j'ai passé une certification cette année avec la CCI du Val-d'Oise, où j'ai une certification valable 3 ans de référent cybersécurité pour TPE et PME. Donc, on peut, en fait, ce qu'on préconise, nous, c'est déjà de faire un petit audit de comment ça se passe au niveau de notre entreprise. Mais il y a des choses toutes bêtes, hein, quand on voit le palmarès des mots de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, AZERTY. Voilà. Bon, ça, tout le monde rigole, mais il y a quand même une majorité de gens qui utilisent ces mots de passe parce que c'est ou le même mot de passe pour l'ordinateur, le téléphone, le compte en banque, enfin tout ce qui va bien. Il faut changer un petit peu sa mentalité par rapport à ça. Quelques règles simples déjà se permettent de se prémunir d'une attaque, d'une cyberattaque. Et oui, pour les gens qui font du télétravail, alors, en théorie, c'est être avec les équipements fournis par l'employeur, qu'ils ont été sécurisés, qui sont en lien avec l'entreprise. Son ordinateur où les enfants jouent, vont faire du jeu en réseau. Généralement, il y a toujours 2-3 virus qui traînent dessus. Se connecter à l'entreprise avec ces outils-là, ça garantit déjà d'augmenter le risque de manière considérable.
Parfait. Troisième métier, sauf si vous avez des points à rajouter sur les cyberattaques.
Alors, je peux donner une info déjà, c'est que nous, avec nos partenaires, justement, nous proposons des audits. Les audits cybersécurité, ça se déroule sur une durée un petit peu plus, une journée, 2 jours, 3 jours, en fonction de la entreprise. Par contre, on propose des tests, enfin une simulation d'attaque des sites de nos partenaires, enfin de nos clients, sans rentrer sur leur serveur. En fait, à travers leur adresse IP, on va lancer et leur fournir après un rapport tout un panel de cyberattaques, pour voir en fait leur apporter une information sur ce qu'ils peuvent avoir comme faille. Alors c'est pas très détaillé, mais ça donne déjà une bonne idée. Donc je vous invite à nous contacter pour ça. Ça s'appelle le sniper et ça permet. Oh. Oui, ça c'est marrant.
C'est très parlant.
Tout à fait. Mais justement, c'est un outil qui va tester en fait la vulnérabilité, l'accès à votre entreprise. Et on vous fournit en quelques jours un rapport détaillé sur les failles à corriger d'urgence pour déjà vous prémunir. Voilà.
Donc troisième activité, tout ce qui est écran interactif, visioconférence, etc.
Oui, ça c'est aussi une solution, enfin des produits qui se sont beaucoup démocratisés avec le Covid. Parce que les gens, enfin comme on parlait, on fait du télétravail, les réunions se sont faites à distance. Donc de plus en plus d'entreprises se sont équipées d'écrans tactiles interactifs et de solutions de visioconférence. Donc à ce titre, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, mais nous avons privilégié quelques acteurs de qualité et nous proposons des solutions d'écrans qui vont servir. Donc à faire des visios pour des salles de conférence, donc avec des caméras qui sont capables de faire de ce qu'on appelle du framing, c'est-à-dire de suivre les interlocuteurs, de zoomer dessus quand ils parlent et ainsi de suite automatiquement.
Donc c'est ce qu'on appelle les chouettes.
Voilà, c'est
ça. j'ai entendu ça une fois, ça m'a surpris.
Ouais, c'est assez marrant. On a équipé pas mal de missions locales entre autres parce qu'ils font des formations. Donc mis à part la visio, ces écrans vont venir avantageusement remplacer ce qu'on appelle le paperboard que tout le monde connaît, le tableau blanc, le papier aussi, les tableaux papier qu'on utilise en réunion, avec Avec l'avantage, c'est qu'on peut écrire dessus, on a un nombre de pages illimité, on peut partager des pages en direct avec les gens qui sont présents, leur envoyer par mail, participer des gens qui sont sur d'autres sites. Donc, par exemple, des clients, vous faites une petite démonstration sur un nouveau produit. Vous pouvez inviter des clients à se connecter et à voir en direct ce que vous faites sur l'écran. Donc, tout ça, ce sont des solutions qui se sont bien démocratisées et ce qui a l'avantage, c'est d'avoir fait baisser les prix. Donc, la fin d'année est propice, comme chez beaucoup de fabricants, à faire des actions commerciales. Donc, si j'encourage les gens qui ont le projet de s'équiper, ne pas tarder puisque la fin d'année approche, entre autres.
Et donc, il y a une promo.
Il y a des promos. Alors voilà, il y a des promos.
Une nouvelle gamme d'écran.
Alors il va y avoir des nouvelles gammes, et justement, après, vous savez, les nouvelles gammes, des fois, on change la couleur du bouton. Donc le mieux, c'est de profiter des gammes actuelles,
donc,
des conditions intéressantes.
Donc promos sur les gammes actuelles qui sont en fin de vie.
C'est comme les voitures.
Avant l'arrivée de la nouvelle collection.
Voilà, qui sera plus chère, mais qui n'apportera pas grand-chose en termes de produits, en termes de solutions. On sait, c'est comme les photocopieurs. On change de modèle tous les deux ans, mais ça fait toujours des copies, ça imprime et ça scanne. Donc ça
oui, mais c'est bien. Adapté au volume de la société
qui croit en capacité, etc.
Ouais, tout à fait. Et sur les écrans, c'est peut-être plus.
Non, sur les écrans, il y a des belles promotions actuellement. Bon, il y en a partout, hein, comme je dirais. Mais il y a des belles promotions chez des partenaires qui ont envie. Faut savoir qu'on a eu la crise des composants, qui n'est pas terminée, hein, puisque certains de nos partenaires sont encore en grande difficulté. Donc, pour certains partenaires, ça s'est libéré d'un coup, et il y a eu une surproduction de matériel. Donc, ce qui est un petit peu aberrant, hein, c'est paradoxal. Du coup, on se retrouve en fin d'année. Alors, beaucoup de partenaires sont d'origine asiatique. Forcément, les fabricants sont asiatiques. Donc, clôturent leur exercice au mois de mars. Mais certains français vont clôturer au 31-12. Et justement, ils se retrouvent avec des stocks qu'ils n'ont pas du tout envie de garder. Donc, bien sûr, on ne va pas les brader à 50% parce que ça reste un produit à valeur ajoutée. Mais il y a des opportunités qui sont assez intéressantes. Si les gens veulent s'équiper, c'est le moment d'y penser vraiment.
On va arriver au bout du temps que je peux vous consacrer. Je vais vous poser deux dernières questions. Une, c'est savoir quels sont vos clients, la typologie de vos clients.
Alors, nos clients sont très variés. Ça va de la TPE à la petite PME, on va dire, jusqu'à 100 personnes, 150 personnes. Alors, on travaille aussi avec quelques grands groupes, dont je ne citerai pas les noms, hein, mais des groupes qui ont plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que nous avons une réputation de qualité de service, et certains groupes préfèrent travailler avec nous, malgré qu'ils aient des accords cadres avec d'autres grands groupes dans notre domaine, tout simplement pour la qualité de service. Voilà, des délais très courts d'intervention, des interlocuteurs habituels au téléphone, et ainsi de suite. Donc, notre clientèle TPE, PME, collectivité, communes, petites communes, parce que la politique des appels d'offres, le moins 10 ans, nous ne travaillons pas au moins 10 ans, nous travaillons une solution adaptée aux besoins. Donc voilà, de la TPE à la PME, collectivité, mairie, mission locale, on a beaucoup travaillé avec les missions locales dernièrement. Et voilà, on est ouvert à toute structure en fait.
Alors deuxième question, la plus dure, c'est votre plus belle réussite.
Notre plus belle réussite, c'est d'avoir la politique que moi j'ai voulu adapter, parce que moi je viens du technique et pas du commercial, c'est d'avoir instauré ce que j'ai toujours promu dans mon activité, c'est la satisfaction du client. Et aujourd'hui, on peut se vanter quand même d'avoir 98%, je dirais, minimum de taux de satisfaction chez nos clients, et nos clients nous sont fidèles depuis en moyenne une bonne dizaine d'années. Donc ceux qui ne le sont plus, malheureusement, c'est qu'ils ne sont plus là. Ou ceux qui, après, vous savez, c'est comme tout, hein, la relation commerciale, l'herbe est plus verte ailleurs, mais le temps qu'on revienne, il y a quelques années se passe. Donc ma plus belle réussite, c'est que nos clients nous sont fidèles depuis longtemps et qu'on travaille essentiellement en bouche à oreille. On fait très peu de prospection. Voilà.
Merci Jean-Pierre Huard. Nous allons marquer une nouvelle pause.
Toi, mais bon, c'est difficile à chanter.
Hein. Non, mais attends, comme toi qui dors à l'aéroport, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle avait les yeux clairs et la robe velours, aux côtés de sa mère et la famille autour. Elle pense un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut le bonheur en personne et la douceur du soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi,
comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles, les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Elle se marierait un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi.
Continuons dans le vintage, donc vous avez entendu une reprise de « Comme toi » et c'est Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Huard de la société ISB, David Devez de DC Coaching et Stéphane Arnoux du club de réduction des coûts, donc... Maintenant, Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la structure, CRC, puisque c'est l'acronyme ?
Bien, bah déjà, merci Paul pour l'invitation. Donc Stéphane Arnoux, donc moi je suis de formation commerce et marketing hein, avec un Master 2. Aujourd'hui, moi je suis co-dirigeant de l'entreprise CRC. Donc les initiales de CRC, c'est Club pour la réduction de coûts. Donc c'est un groupement de PME, un cabinet d'audit et de courtage en achat non stratégique spécialisé dans la réduction de coûts pour les TPME. Et grâce aujourd'hui à la mutualisation des volumes d'achat donc consommés par ses membres, CRC donc a négocié des conditions grand compte des achats de biens et services pour couvrir les besoins de toute structure dans le domaine des frais généraux. Alors aujourd'hui, on a deux sites. On est présent à Montmorency, dans le 95, et au Vésinet, dans le 78. On est trois personnes. Donc moi, j'ai rejoint les deux cofondateurs en 2014. La structure existe depuis 2010, donc depuis depuis bientôt 13 ans. Et notre métier premier, il a été de dire, ben voilà, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, puisque tout le monde était issu du monde salarial, de sociétés diverses et variées, puisque moi je travaillais chez Néopost France, donc dans la machine à franchir. Ensuite j'ai un profil commerce sur lequel j'ai intégré la téléphonie, le groupe 9CGTL, le groupe LDCOM, pour être acheté après par SFR, donc je suis resté plus de 15 ans dans la téléphonie. Et donc la réflexion a été de dire ce qu'on peut faire après de rester dans des grandes entreprises, c'est éventuellement de proposer les services associés des grandes entreprises au sein des petites entreprises. Et donc la réflexion était de dire et de créer donc le club pour la réduction de coûts. Voilà, donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de 600 clients.
Mais pas que des TPE.
Alors pas que des TPE, puisque notre cible aujourd'hui, on va être sur le, on a un gros ventre mou entre 50 et 80 salariés. Notre cible principale, c'est une entreprise qui n'a pas de direction achat, qui va avoir soit un office manager ou un responsable services généraux, qui a pas le temps forcément d'aller négocier tous ses prix. Et notre but premier, justement, c'est de faire réaliser des économies sur ces postes qui sont pas du tout stratégiques. Alors encore une fois, on n'intervient pas du tout sur les achats métiers. Une industrie l'industrie qui va acheter du métal, qui va acheter du caoutchouc, qui va acheter du carbone. C'est ses achats premiers. Nous, on n'y va pas du tout. Hein. Il sait très très bien le faire. Par contre, tout ce qui sert à faire fonctionner une entreprise en termes éventuellement de fourniture de bureaux, de machines à
franchir. Donc ce qu'on appelle les frais généraux.
Voilà,
en fait.
Les frais généraux, le copieur, hein, comme on a parlé Jean-Pierre. Voilà, toutes ces choses-là, nous, on peut intervenir. Pourquoi ? Parce que on a négocié très fortement avec des partenaires. Et après, nous, ces partenaires et ces accords-cadres, on les restitue auprès de nos clients.
D'accord. Il y a des associations aussi dans vos clients ?
Tout à fait. Tout à fait. On travaille aussi avec le domaine associatif, les fédérations. On travaille aussi avec le monde du sport. On a des districts, on a des comités. Voilà, on travaille avec le foot, on travaille avec le tennis. On travaille beaucoup avec le monde associatif, comme l'avait dit, parce qu'on a mis en place alors un mini accord-cadre, mais sur les missions locales. On a quasiment plus d'une cinquantaine de missions locales Paris, région parisienne, et quelques-unes au niveau national, puisqu'on intervient aussi au niveau national, comme on fait de la dématérialisation. Et encore une fois, on intervient bien évidemment sur tout ce qui n'est pas du tout stratégique, comme vous le disiez tout à l'heure, Paul.
D'accord. En termes de famille d'achat, vous, au fur et à mesure, vous élargissez votre champ. Comment ça se passe aujourd'hui? Quel est votre cœur de métier en termes de réduction de coûts l'évolution que vous prévoyez?
Alors tout à fait. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de familles. Comme je disais tout à l'heure, ça va de la fourniture de bureaux en passant par de l'impression, du transport, les goodies, la clim, les fontaines à eau. Voilà, tout ce qui sert à faire fonctionner une entreprise. Après, on a des familles d'achat qui vont être de manière répétitive et qui vont être celles aujourd'hui qui vont nous tirer vers le haut. Hein. Je vais prendre par exemple la fourniture de bureaux, qui est un grand classique. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises ont des fournitures de bureaux. On va retrouver aussi de la protection incendie, puisque c'est une obligation. Tout le monde a des extincteurs, des copieurs, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure. C'est des choses que l'on retrouve systématiquement en entreprise. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on va analyser. Et ça, on le fait aujourd'hui par l'intermédiaire d'un audit.
Alors, l'audit, expliquez-nous. Comment ça se passe ?
Alors, comment ça se passe ?
Alors,
ça se passe
généralement... on remonte un cran en arrière. Donc, vous fonctionnez comment ? Vous fonctionnez par le bouche à oreille essentiellement ?
Oui, alors...
Vous faites une démarche un peu plus active commercialement. Et à partir de là, vous avez un premier contact client. Donc, là, tout commence. Est-ce que vous commencez par un audit ? Comment procédez-vous ?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué et tellement dur d'entrer dans les entreprises, surtout à l'heure actuelle, avec le télétravail, on n'arrive pas du tout à toucher les gens, les congés, les maladies, etc. Alors, nous, on fait beaucoup de prospection, terrain. C'est vrai que c'est un métier qui est quand même très dur et pénible, mais ce qui est sympa, c'est qu'on rencontre quand même les gens. Et notre démarche, comme vous le disiez, Paul, aujourd'hui, c'est de rentrer en contact avec la personne qui gère les achats, voilà, ou au moins les frais généraux. À partir de là, le but, c'est de lui expliquer et d'analyser ensemble les postes sur lesquels on peut lui faire réaliser des économies, encore une fois, sur des postes qui ne sont pas stratégiques. Et on travaille par l'intermédiaire d'un audit. Donc l'audit, c'est très simple. On récolte quelques data, hein, donc quelques factures sur des familles d'achats qu'on a identifiées ensemble. Généralement, on essaye de prendre 3 ou 4 familles. Et après, à partir de là, lorsqu'on a récolté ces familles d'achats, moi, je les transmets à notre responsable back-office qui va analyser les tarifs, les contrats, les conditions tarifaires qui ont été mis en place au sein de l'entreprise. Et à partir de là, on va transmettre un comparatif à isopérimètre. Ce que vous consommez et ce que vous achetez avec votre fournisseur et ce que vous allez payer demain avec les conditions CRC. Voilà. Et encore une fois, isopérimètre.
D'accord. Donc là, ça permet immédiatement de visualiser le niveau d'économie qu'on peut attendre. Et donc, la personne immédiatement dit « Fantastique, je suis intéressé ». Et donc, elle devient adhérent, c'est ça ?
Exactement. Donc, comment ça se passe ? On identifie les familles, comme je disais tout à l'heure. On analyse les budgets. À partir de là, on va avoir un indice de performance ou un gain pour l'entreprise. Et nous, notre rémunération, parce qu'il faut bien qu'on se rémunère aussi, hein, bien évidemment, on n'est pas non plus qu'une association à but non lucratif, ça va être une partie de cette économie. Et cette partie de cette économie, elle est autofinancée par les économies qu'on va restituer dans l'audit. Voilà.
L'audit est payant ou pas ?
Non, l'audit est complètement gratuit. Voilà, donc sur... alors généralement, on analyse entre 2 ou 3 familles au bout de une petite semaine, en fonction de l'ensemble des éléments qui ont été récupérés au sein de l'entreprise, on vous présente l'audit. Alors après, ce qui est compliqué, c'est de récupérer les éléments. Pourquoi ? Parce que on va rencontrer la personne, on va lui présenter les familles d'achat, on va ensemble analyser et regarder les potentiels et les sources d'économies qu'on peut faire ensemble. Et après, c'est récupérer les éléments. Et là, c'est très très compliqué. Et on peut attendre entre 15 jours et un mois, des fois.
Oui, pour des problèmes d'organisation de la société.
Qui, exactement.
C'est pas forcément dans ses priorités, ou il a du mal à retrouver,
parce que
il faut qu'il aille rechercher dans des classeurs l'info son système de classement ne lui permet pas d'isoler le fournisseur en question facilement, c'est ça?
Tout à fait. Alors je vais faire un clin d'œil à Jean-Pierre, mais c'est pour ça que des fois un outil de jet va être indispensable, parce que ça permet de récupérer en un clin d'œil l'ensemble des éléments, les budgets, et nous de pouvoir travailler sereinement pour pouvoir faire une restitution d'audit dans un deuxième temps.
Donc Jean-Pierre, vous confirmez l'importance de l'archivage et la facilité via la dématérialisation?
Ah, tout à fait, hein, puisque retrouver un document qui a été correctement archivé électroniquement, ça se récupère en quelques secondes, alors que d'ouvrir une armoire, trouver le bon dossier et récupérer le papier quand on l'a bien gardé, c'est une autre affaire. Donc ça encourage les gens à répondre facilement à Monsieur Arnoux à ce sujet-là, parce qu'il peut lui donner les documents très très rapidement.
Ceci dit, vous avez dit un mot important, c'est correctement archivé. Donc, alors, il faut vraiment réfléchir comment...
Toute bonne solution d'archivage électronique, en fait, quand vous scannez un document, il va se ranger automatiquement au bon endroit. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc,
mais il faut avoir fait déjà l'arbre...
Ça, c'est notre métier, justement.
Donc, c'est vous qui intervenez là-dessus.
C'est nous qui intervenons.
D'accord.
Ouais. Ce qui permet aussi de gagner du temps.
Donc, je reviens à Stéphane. On a dit digressionné. Et donc, vous avez récupéré toutes les infos. Donc là, ils deviennent adhérents, c'est ça ?
Exactement. Ils deviennent adhérents de notre groupement. Donc comment ça se passe ? C'est très très simple. Donc nous, on a une plateforme dématérialisée sur laquelle, lorsque le client est adhérent et fait partie de notre groupement, il va avoir un login et un mot de passe pour se connecter donc sur notre plateforme. Et une fois qu'il va être connecté sur notre plateforme, il va retrouver l'ensemble des partenaires. Donc aujourd'hui, plus d'une trentaine, hein, bien évidemment. Et dès qu'il va avoir un intérêt à passer une commande via l'un de nos partenaires, il se connecte, il passe sa commande. Mais au lieu de passer sa commande aux conditions actuelles qu'il avait aujourd'hui de négociation avec son partenaire, il va les avoir aux conditions CRC. Voilà. Alors c'est très bien fait, hein. Vous allez avoir le contact, les coordonnées, et dès que vous appelez le partenaire, lui il est au courant que vous êtes complètement client du groupement CRC.
Alors combien, toujours la question fatidique, hein, combien ça coûte de devenir adhérent ?
Alors c'est très aléatoire, puisque ça va être en fonction de votre budget et de vos consommations. Pourquoi ? Puisque une entreprise de 5 salariés qui va avoir très peu de frais généraux, très peu d'achats de fournitures de bureaux, quelques extincteurs, peut-être une petite machine à franchir, ça va être complètement différent d'une grosse PME qui va avoir X milliers d'euros de fournitures de bureaux, des copieurs en pagaille, des titres déjeuner, des prestations de ménage, etc. Donc nous, notre calcul, il est simple, il est sur une part de l'économie qui va être engendrée après audit. Donc, chez nous, vous pouvez avoir des gens qui vont payer 30 euros de cotisation par mois jusqu'à 500 euros par mois. Voilà, c'est très aléatoire, mais ça, on le prouve. C'est pour ça qu'on fait des audits et qu'on prouve et qu'on regarde ensemble l'économie qu'on peut générer.
Et une fois que c'est déterminé, donc la société a adhéré,
oui.
Comment se passe la révision de la cotisation ?
Alors,
d'une année sur l'autre, il y a un recalcul qui est fait ou c'est figé ? Comment ça se passe concrètement ?
Nous on essaye tant bien que mal de faire des points avec nos clients une fois par an et de regarder ensemble sur les familles d'achat qui ont été identifiées si elles répondent bien aujourd'hui au budget qu'on avait été qualifié et quantifié depuis le début. Il faut savoir que comme on fait un audit et qu'on est sur les budgets qui ont été quantifiés sur une année, on est généralement entre plus 5 et moins 5% sur les éléments qui ont été déterminés au démarrage. Après, si éventuellement et bien évidemment la personne ou l'entreprise a eu des difficultés à moins de salariés, à moins de consommation, on est et bien évidemment capable de réviser notre cotisation. Mais généralement, on révise les cotisations à la baisse et jamais à la hausse. Voilà, donc il y a un intérêt quand même.
C'est que du bonheur.
Voilà, exactement. Et lorsqu'on a étudié, je prends un exemple, 3-4 postes sur notre plateforme, toutes les autres familles sont ouvertes. Donc vous pouvez faire et vous pouvez ouvrir tous nos partenaires comme vous le souhaitez sans augmenter votre cotisation de démarrage. Voilà. Donc ça, c'est important.
C'est fondamental. Nous allons marquer une nouvelle pause.
Je traîne dans les couloirs et tu me colles cette image que tu imaginais, mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle. Ça te rassure de croire que je suis comme cette fille que tu t'imaginais, mais je ne serai plus jamais la même. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Folle, tu me crois folle, et ça te rend malade que je décore ces histoires que tu t'imaginais, mais je ne serai plus jamais la même.
Nous en avons terminé avec les chansons vintage. Donc maintenant, vous venez d'entendre Isia et le titre de la chanson, c'était Fall. Donc nous sommes toujours avec Jean-Pierre Huard, ISB, David Devez, DC Coaching et Stéphane Arnoux, CRC, Club pour la réduction des coûts. Et donc nous allons poursuivre notre entretien ensemble. Donc les familles de produits et les nouvelles familles de produits que vous allez rentrer dans votre catalogue.
Alors on en a rentré déjà quelques-unes sur cette année. Généralement on essaye de rentrer 2 à 3 familles par an. Cette année on a rentré tout ce qui concernait la partie clim et CVC avec le groupe Edelweiss que vous connaissez bien Paul. On a rentré toute la partie bureautique, écran jet donc avec Jean-Pierre. On a rentré aussi tout ce qui était traitement des nuisibles avec une société partenaire et cliente. Puisque quand je vous parle des partenaires, ils sont aussi clients, hein, bien évidemment, pour profiter aussi de nos accords cadres. Et on a rentré avec AZ.com dernièrement, qui est venu intervenir sur le plateau, la partie goodies et identité visuelle. Voilà. On recherche toujours et bien évidemment des nouveaux partenaires puisque beaucoup de nos membres font appel à nous dès que ça concerne les frais généraux. On est en train de travailler aujourd'hui sur tout ce qui est EPI parce qu'on a une forte demande de la part de nos clients d'industrie sur tout ce qui va concerner les chaussures de sécurité, tout ce qui va concerner des vêtements, voilà, toute la partie EPI. On est en cours de rentrée, on a finalisé aussi avec la partie emballage. Tout ce qui est carton, papier bulle, caisse américaine, voilà, donc toutes ces choses-là, pour répondre bien évidemment à nos clients dans le domaine de l'industrie.
D'accord. Et également les assurances ?
Oui, les assurances aussi, tout à fait. Donc, on travaille aujourd'hui avec une entité AXA, avec une très belle agence à Méru, qui justement répond à l'ensemble du scope sur la partie assurance auprès de nos TPME.
D'accord. Alors là, concrètement, les clients vont sur le site, ils voient le partenaire référencé.
Tout à fait.
Et ils prennent contact directement Exactement. Avec le partenaire pour déterminer, j'allais dire comme par exemple avec Jean-Pierre Huard, pour que celui-ci fasse l'audit pour déterminer les réponses en termes de produits. Et après, c'est le tarif négocié qui va s'appliquer. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Exactement, tout à fait. Le tarif est le même pour tout le monde. Alors, sauf bien évidemment pour des sujets, on va dire, un petit peu plus compliqués dans le cas où il y a des appels d'offres avec un cahier des charges bien défini. Nous, il y a certaines choses que l'on sait et qu'on peut analyser très rapidement, hein, des factures de fourniture de bureau, un contrat de machine à franchir, des frais sur des titres déjeuner. Ça, c'est très très simple. Ça, c'est nos équipes au back-office qui le font. Par contre, dès que vous êtes sur des contrat d'engagement type du photocopieur, de l'assurance ou autre, bien évidemment, c'est notre partenaire qui prend rendez-vous avec le client, qui se déplace et qui lui fait un audit aux conditions CRC. Voilà. Mais c'est lui qui va gérer directement. Alors, on l'accompagne ou non, mais c'est très, très simple et très facile. Hein. C'est connexion, comme vous l'avez dit, Paul, sur le site, appel du client et rendez-vous par la suite avec nos partenaires qui sont très réactifs, hein, généralement.
Alors, c'est une excellente transition. Les partenaires. Alors, vous avez dit qu'un certain nombre de vos partenaires étaient aussi vos clients. Quels sont vos partenaires ?
Alors,
et comment vous les référencez, finalement ?
Alors, nous, notre but, bien évidemment, et comme je disais en préambule, c'est de rester, bien évidemment, dans les frais généraux. C'est de travailler avec un seul et unique partenaire, systématiquement. Donc, on mélange pas. On a un seul et unique partenaire, systématiquement. On essaie, comme je disais tout à l'heure, de rentrer 2 à 3 nouveaux partenaires par an. Tous nos clients, tous nos partenaires ne sont pas clients, hein, parce qu'on a aujourd'hui des institutionnels, hein, forcément. Mais globalement, dans le cadre où le partenaire a une offre ou un service en adéquation avec la demande de nos clients, on le met sur la plateforme, il nous crée et il a une offre tarifaire, on va dire, séduisante, bien évidemment, pour nos clients, qui vont permettre justement de générer, de puiser et d'avoir une économie non substantielle. Voilà.
D'accord. Donc, vous disiez... Un partenaire par solution, par famille.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une société, je veux devenir partenaire. Il y a déjà un partenaire en place. J'ai une chance de le déboulonner en ayant de meilleures conditions ou non.
Non, puisqu'on est assez fidèle. On est assez fidèle. Si ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Voilà, on va être plus dans les nouveaux partenaires. Alors après.
Donc je vous contacte, je dis, ça m'intéresse d'être partenaire dans tel nouveau métier que vous n'avez pas.
Après, on peut regarder. Voilà, encore une fois, on peut regarder. C'est l'offre et la demande, hein, bien évidemment. Mais je vais pas prendre une société cliente partenaire pour la mettre sur la plateforme et
la déréférencer.
Et la déréférencer.
C'est compliqué. Client, partenaire, surtout, fournisseur.
Exactement. Surtout si ça se passe bien. Nous, généralement, nos partenaires ont entre 5 et 10 ans d'ancienneté sur notre plateforme. Donc, ils sont fidèles. Ça se passe très, très bien. Et c'est quand même un gage de qualité vis-à-vis de nos clients. Nous, notre but, c'est de pas d'interférer, de modifier ce qui se passe bien. Voilà. Après, que le client achète une ramette de papier, un stylo chez un partenaire lambda et travaille avec nous, il s'en fiche, c'est du non stratégique. Mais demain, il travaille sur, par exemple, un partenaire ménage où ça va très très bien se passer. Il a pas sujet à changer. Voilà, à part le tarif. Mais si ça se passe bien, il va renégocier avec son partenaire existant.
Vous voyez ? Parce que les clients n'ont pas d'obligation d'achat via la plateforme. Donc, ils peuvent à tout moment voir s'il y a une promotion ailleurs.
Exactement.
Et vous, à travers les statistiques que vous pouvez avoir, est-ce qu'à un moment, vous pouvez vous rendre compte que par rapport à l'historique d'un client, il achète plus telle famille de produits qu'il achetait avant, donc ça peut être un clignotant éventuel d'alarme sur le fait que finalement le partenaire en place est moins compétitif.
Non, aujourd'hui, alors nous on a des indicateurs. Généralement, les familles d'achat qu'on va identifier au démarrage, elles sont suivies, puisque on a quand même une personne de chez nous qui se déplace lors de la mise en service, qui suit sur la partie technique et moi sur la partie commerciale. Donc c'est des clients aussi que je vais voir de manière régulière. On fait des points avec eux chaque année. Et après, nous, on a quand même une stat où le client, lorsqu'il va identifier deux ou trois familles d'achat lors de l'audit, va plutôt évoluer et avoir une tendance à regarder d'autres familles. Voilà, donc on est plutôt bien sur cette statistique. Après, on peut avoir des clients qui n'utilisent moins la plateforme ou qui vont avoir beaucoup moins de budget, puisque c'est des sociétés soit qui vont être rachetées et qui vont être absorbées par un grand groupe, où là, il va y avoir des directeurs d'achat en batterie, et derrière, on n'a plus lieu d'être. Voilà, et là, généralement, on est convoqué
pour arrêter le contrat.
Pour arrêter le contrat ou trouver éventuellement...
Ça dépend de la taille, du repreneur.
Aussi, voilà, exactement. Et aussi, on a quelquefois des directeurs d'achat qui gardent notre structure et qui vont renégocier avec leurs partenaires existants. Donc, ils vont faire aussi du sourcing avec notre plateforme, ce qui leur permet de renégocier avec leurs partenaires existants. Et ça, ils l'ont bien compris. Voilà.
Normal.
Normal, voilà, tout à fait.
Puisque on parle d'économie, aujourd'hui il y a un thème qui est quand même très à la mode, c'est l'énergie. Donc est-ce que vous avez des solutions pour vos membres pour réduire les dépenses d'énergie?
Alors je pense que si j'en avais actuellement, le téléphone n'arrêterait pas de sonner.
Bon, pour ralentir les hausses, à défaut de faire des économies.
Non, c'est très compliqué puisque nous on avait des accords cadres et on travaille aujourd'hui avec un client partenaire par exemple Sikae. Non, c'est très très dur parce qu'aujourd'hui c'est l'offre de la loi et de la demande. On le voit, c'est en augmentation de manière permanente. Alors, ce que je voudrais quand même mentionner, quelque chose qui est très important, par contre, nos clients sont très inquiets. Ça, je le vois. On a des remontées d'informations sur nos clients qui nous disent, voilà, l'année prochaine, nous, gaz, électricité, ça va tripler, quadrupler. Il va y avoir des effets multiplicateurs par 5 ou 10. Et là, là-dessus, ils sont vraiment très, très inquiets. Et derrière, ça peut être aussi des résiliations en cascade avec des entreprises, soit qui réduisent drastiquement leurs coûts ou soit qui ferment. Et là-dessus, nous, pour l'instant, on n'a pas du tout la solution. Autant on peut intervenir sur la partie frais généraux, mais là, sur gaz, électricité, sur toute l'énergie, aujourd'hui, nous, on est complètement bloqués. Voilà. Et ça, c'est quand même dramatique.
C'est un vrai souci les mois qui viennent. Exactement. Et on n'a pas franchement de visibilité au niveau des entreprises.
On n'a pas de visibilité, c'est anxiogène et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est quand même un frein à la fois pour nous, mais aussi pour l'ensemble des confrères. Hein. Et je pense qu'on va être plutôt dans un climat anxiogène sur cette partie-là.
Alors je reviens un peu en arrière par rapport à ce qu'on s'est dit.
Oui.
Vous avez parlé d'audit, vous avez parlé de nouveaux clients et de partenaires. Sur votre site, vous parlez de CRC Central et CRC Courtage.
Oui.
La différence entre les deux, tout ce dont on a parlé, c'est de la partie centrale.
Tout à fait.
Et la partie courtage?
Alors, c'est plutôt la partie avantage salarié, sur lequel on a une brique supplémentaire.
Courtage, c'est différent d'avantage salarié.
Tout à fait. Alors, courtage...
Et après, on parle d'avantage salarié.
D'accord. Alors, courtage, c'était au démarrage de la structure, mais on l'a laissé. On souhaitait aussi faire du réseau d'affaires à l'intérieur de CRC. On le fait aujourd'hui avec nos partenaires, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup en apport d'affaires ou en recommandation, et ce qui marche bien. Et on avait gardé justement cette brique courtage.
D'accord,
c'est un mini réseau. Voilà,
voilà,
réseau,
c'est l'écosystème CRC
qui nous D'accord. fait travailler aussi avec nos partenaires. Voilà.
D'accord. Alors effectivement, il y a CRC Business et CRC Avantage Salarié.
Exactement.
Donc on a parlé de CRC Business, donc on va parler un peu maintenant de CRC Avantage Salarié.
Alors CRC Avantage Salarié, donc c'est une brique supplémentaire qu'on a rajoutée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, notre cible, on est entre 10 et 50 salariés sur des entreprises qui n'ont pas de CE ou de vocation de ne pas avoir de CE, bien évidemment. Et on a eu la réflexion de dire, voilà... Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de familles d'achat sur la partie frais généraux. On pourrait éventuellement négocier avec un certain nombre de partenaires sur la partie avantage salarié. Et donc, on a créé depuis 6 ans aujourd'hui une plateforme à côté qui permet donc aux dirigeants DAF ou RH de bénéficier d'accords pour ses salariés par l'intermédiaire d'une petite carte que l'on met à disposition du salarié et qui permet de bénéficier d'accords divers et variés sur de la billetterie, des spectacles, des voyages, des parfumeurs, de la location de véhicules. Et ça, c'est du plus, c'est quelque chose qu'on offre, qu'on met à la disposition du salarié.
Voilà. D'accord. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelait les comités d'entreprise, donc les CSE.
Tout à fait. Alors, je me dis pas être le meilleur du marché, hein, bien évidemment, sur cette partie-là, parce qu'il y a des gens qui le font très très bien. Mais c'est un petit plus. C'est quelque chose que l'on offre et ça permet aujourd'hui, bien évidemment, de fédérer les équipes au sein de ces TPME dans les, on va dire, dans le contexte un petit peu difficile. Voilà.
Même question qu'à Jean-Pierre Huard. Votre plus belle réussite ?
Bah, moi, je dirais aujourd'hui les recommandations que peuvent nous faire les clients. Ils sont sympas, voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, ils jouent le jeu. Quand on va les voir, ils nous aident. C'est tellement dur de faire du nouveau business et d'entrer dans les entreprises qui sont archi sollicitées. On a pas mal de remontées, de recommandations, soit par l'intermédiaire des réseaux ou de nos clients. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très sympa parce que ça permet quand même d'avoir un effet boule de neige et de faire du business.
Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée? Stéphane.
Non, je pense que c'est assez complet, Paul, sur l'ensemble des choses que vous m'avez, sur lesquelles vous m'avez interrogé.
Donc vous pensez qu'on connaît bien maintenant CRC?
Bah, j'espère. En tout cas,
je suis disponible. Et les pour plus de CRC, je vous ai pas posé la question sur vos plus, on a compris que c'était des moins sur les coûts.
Bah, je pense que vu la situation actuelle, nous, on vient qu'avec des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, si vous souhaitez, en tout cas, qu'on souhaite, faire un audit, vous pouvez nous contacter, ou m'appeler, bien évidemment, et ça sera avec plaisir que je viendrai vous rencontrer en tout cas.
Merci. Une nouvelle pause.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I might snap. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you? Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you?
Vous venez d'entendre Rosaline et le titre de la chanson est Slap. Merci d'être toujours avec nous sur IDFM et nous sommes toujours avec Jean-Pierre Huard de la société ISB, Stéphane Arnoux, club pour la réduction des coûts, CRC, et David Devez, DC Coaching. J'ai tendance à vouloir dire DC. DC Coaching, coach formateur. Donc, David, présentez-vous et votre structure et tout ce que vous faites.
Merci, bonjour Paul. Donc David Deves, coach professionnel certifié formateur, parcours un petit peu atypique. J'ai une formation de comédien pour démarrer, j'ai été danseur et j'ai travaillé à l'éducation nationale pendant 15 ans. Je suis formateur depuis maintenant une quinzaine d'années, coach depuis 8 ans. J'ai donc ma société DC Coaching. Je fais du coaching de dirigeants, du coaching de particuliers et de la formation pour les entreprises. Mais ma prédilection en formation, c'est gestion du stress, prise de parole, accompagnement au changement, leadership et gestion du temps et des priorités.
Parfait. Donc, gestion du trac, c'est le théâtre.
C'est gestion du trac, c'est le théâtre, effectivement. Et j'interviens beaucoup dans la gestion du trac pour les dirigeants, pour les préparations de réunions, pour les préparations de prise de parole, ou pour les particuliers, pour des préparations d'examens ou d'événements professionnels qui demandent effectivement de pouvoir relâcher un petit peu la pression.
Alors comment concrètement quelqu'un qui, enfin on a souvent entendu des acteurs dire avant d'entrer en scène, ouais, j'ai la boule au ventre ou je vomis, comment concrètement vous pouvez agir sur ces paramètres-là?
Alors déjà Paul, il faut faire la paix avec ça, c'est-à-dire qu'avoir le trac, c'est normal. Et que le trac au bon dosage, au bon curseur, c'est un moteur, c'est une petite étincelle qui va faire qu'à ce moment-là, on va tout donner et en fait, on va être dans la performance. Après, le trac avec un curseur très développé qui peut se transformer en stress, celui-ci peut être paralysant et c'est celui-là qu'il faut travailler. Avoir le trac, c'est se dire, bah, je vais prendre l'exemple ce matin, Paul. Je visualise la situation, je me dis, ah, Paul m'a invité à faire une émission de radio. Je connais pas le studio, je connais pas le technicien, je suis jamais venu. Est-ce que je vais mettre du temps? Est-ce que je vais trouver de la place pour me garer? Voyez, Paul, toute l'anticipation de la situation.
On se fait de son cinéma.
Et en même temps que j'envisage la situation à venir, forcément, je vais me questionner sur mes compétences. Est-ce que je vais avoir quelque chose d'intelligent à dire? Alors, j'espère que je vais trouver les réponses aux questions de Paul. Ah, puis si je bafouille. Et donc, vous voyez, Paul, en fait, le trac, c'est ce subtil mélange entre la perception de nos compétences et la visualisation de la situation.
Alors, le premier point, vous vous donnez de la marge pour arriver jusqu'ici, ça peut être levé. Par contre, les autres points, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Exactement. Donc, effectivement, la situation à venir, déjà, comme vous l'avez très bien dit, il y a tous les éléments sur lesquels on peut agir. Je vais prévoir du temps supplémentaire pour arriver. Je vais poser des questions à Paul sur les conditions de l'enregistrement, etc. Ça se règle. Après, la perception de nos compétences. Eh ben, ça, c'est effectivement mon travail d'aller accompagner sur la capitalisation, sur ce qui a déjà été mis en place, sur les succès qui ont été déjà réalisés, pour que la personne parte aussi chargée de cette visualisation positive de ses compétences.
Alors, ça, c'est pour une interview, parce que il n'y a pas... J'allais dire, on a parlé du métier de Jean-Pierre, du métier de Stéphane. Donc forcément, ce sont des professionnels, ils maîtrisent le sujet. Par contre, un étudiant qui arrive le jour de l'examen, sur le sentiment « j'ai tout oublié », c'est beaucoup plus compliqué quand même pour agir, parce que là, on est vraiment dans le psy dur. Que vous disiez, j'ai perdu mes moyens. Alors, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, une fois qu'ils sont confrontés à la feuille... Bah, il y a deux cas de figure. Soit c'est la panique totale et je ne sais rien, soit ça y est, les chakras sont ouverts et je rentre dans le vif et je commence à gratter. Oui. Mais quand on se retrouve dans le cas de figure panique à bord, comment vous pouvez concrètement aider dans la première phase, rassurer, ok, et après?
Et après, en fait, la question, c'est réellement l'objectif qu'on a derrière. Parce que l'exemple que vous donniez, Paul, est super intéressant. Notre cerveau, il n'est pas en capacité de gérer la double tâche. Alors, par moment, on se dit, si, moi, je suis capable de faire deux choses en même temps. En fait, on passe d'une activité à une autre de manière très rapide, ce qui nous donne l'illusion d'être dans la double tâche. Et la question étant effectivement qu'à un moment, si on se fixe comme objectif à la fois de répondre correctement aux questions et en même temps de se souvenir de ce qu'on a appris et d'avoir des réponses intelligentes, on envoie une double information à notre cerveau. Et là, notre cerveau, à un moment, ça bug. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode protection. Donc la première chose, c'est de se recentrer aussi sur qu'est-ce qu'on veut, quel est notre objectif de départ. Et de ne poursuivre qu'un seul et même objectif et pas plusieurs objectifs en même temps. Si notre objectif, c'est de restituer intégralement ce qu'on a appris par cœur, on ne se centre que sur cet objectif. Mais ce qui veut dire que si l'examinateur nous pose des questions qui sortent de ce travail de mémoire, là, ça peut être la panique. Donc, est-ce qu'on est en capacité, à ce moment-là, de changer d'objectif et d'être sur l'objectif d'improviser?
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en permanence avec un double objectif? Je suis dans la prise de parole en public. Il y a à la fois mon ton, la manière dont je parle, mon phrasé, ma volonté de convaincre les gens, ma gestuelle vis-à-vis du public. Est-ce que je fixe un point à l'horizon ou au contraire je regarde la salle et je choisis quelqu'un au milieu de la salle? En permanence, on est en mode multitâche.
Et oui et non. C'est-à-dire, Paul, quand vous prenez la parole, il y a un temps pour tout. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Avant, vous préparez votre prise de parole, le contenu de votre message. Vous avez peut-être travaillé techniquement votre voix, votre respiration, votre placement de voix, les intonations. Vous avez peut-être aussi travaillé votre gestuelle. Tout ça, c'est l'avant, c'est l'entraînement du sportif.
Donc ça, c'est vous, c'est le coach,
c'est ça,
qui prépare à tout ça,
c'est
pour
ça,
arriver au jour J détendu.
Comme un sportif, exactement. Et par contre, Paul, quand vous prenez la parole, là, quand je vous parle et je ne fais rien d'autre. Mais si je me regarde parler, que je m'analyse pendant que je parle, encore une fois, notre cerveau ne peut pas faire la double tâche. Donc si à un moment, pendant que je vous parle, je me regarde parler, je perds la connexion avec vous et je perds aussi le sens de mon propos. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour tout. Sur la gestion du temps.
Oui.
Alors, je voudrais que vous expliquiez quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu et auquel je fais référence en permanence, c'est la matrice d'Eisenhower.
Oui, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer en quoi consiste la matrice d'Eisenhower? Parce que je trouve que effectivement, c'est quelque chose qui, dans le quotidien et dans le mode de fonctionnement des dirigeants, est vraiment une aide.
Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est aussi un principe pour notamment arriver à catégoriser ou en tout cas à classer les tâches avec des critères. Et notamment, il y a deux critères, le critère d'importance et le critère d'urgence. Et c'est le moyen pour un dirigeant, mais pour un collaborateur aussi, de questionner si la tâche à venir, la tâche à planifier, est importante et urgente. Et en fait, on va croiser les deux critères, ce qui fait que on va avoir par exemple un premier classement qui va être cette tâche-là, si elle est importante et urgente, elle est donc à faire tout de suite et maintenant. Et vous voyez, si on prend le curseur, le dernier, si cette tâche n'est pas importante et n'est pas urgente, soit je l'abandonne, soit je la délègue. Et donc, c'est le moyen pour le dirigeant de toujours prendre la main et prendre sa responsabilité d'agir sur l'organisation de ses tâches. Et en tout cas, à quels objectifs elles répondent. Est-ce que c'est un objectif d'importance? Est-ce que c'est effectivement urgent, un objectif un peu plus temporel qui demande réactivité? Voilà, dans un travail de planification, la matrice est vraiment un outil formidable.
Donc là, je vais utiliser la matrice d'Eisenhower et nous allons faire une dernière pause.
I play the old refrain. You say white, I say black.
first you leave, then you wanna come back no matter the season. I see the cold on your face, you don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion, it's not my love that you chase as a conclusion. It's just a warm embrace. Change, you're still the same. You take it slow, I'm on the fast lane. You go left, I go right. Moving on, baby, don't look back. No matter the season, I see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion, it's not my love that you chase as a conclusion. Embrace. It's not so easy to love someone, even when you know she's the one. And at the end of the day, I love her more when she's away. She's away.
Venez d'entendre Charles Passy, Warm Embrace. J'espère que vous appréciez l'accent. Donc, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Huard de la société ISB, Stéphane Arnoux, CRC, donc Club Réduction des Coûts, et David Devez, DC, vraiment ça me plaît, DC, DC Coaching, donc coach et formateur. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de ce que moi j'appelle la méthode des couleurs.
Alors je vais faire une petite parenthèse pas là avant, puisque vous hésitez entre DC Coaching et DC Coaching. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est mon filleul qui a trouvé le nom, puisque donc David Devez. Et donc il y a une grande tradition chez les coachs, c'est de prendre les initiales de son nom et son prénom et de faire coaching derrière. Moi, ça aurait donné DD Coaching. J'étais moyennement convaincu. Et en discutant avec mon filleul, il m'a dit, mais tu prends Devez et tu prends le C de coaching et ça fait DC Coaching. Et mon filleul m'a dit, en plus, ça fait DC Comics. Et
absolument.
Et il me dit, comme t'es le super-héros des coachs, prends DC Coaching.
Et c'est voilà. Pour ça que j'ai envie de dire en permanence voilà. DC, c'est
donc
à cause des DC Comics.
Les deux me vont très bien, Paul. Et donc, par rapport à votre question sur la méthode DISC, notamment par rapport à la prise de parole et la communication, je vais continuer finalement dans le DC Comics, puisque le fondateur de la méthode DISC, c'est Marston, et donc il a créé effectivement la méthode DISC en 1928, qui a été évidemment retravaillé depuis, et sous un pseudonyme, Monsieur Marston était le créateur de la série Wonder Woman. Donc voilà, la boucle est bouclée autour de DC Comics.
Donc on retrouve dans la tenue de Wonder Woman le choix des couleurs.
Le choix des couleurs.
Donc ça a
exactement.
Été profondément réfléchi.
Exactement.
Ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas par hasard. Et donc le profil disque part d'un postulat qui est qu'effectivement nos comportements peuvent se catégoriser, en tout cas se retrouver dans quatre profils différents et quatre profils qui sont liés aux couleurs, donc le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Ce qui est intéressant avec le profil disque, c'est qu'en fait on va avoir notre profil naturel avec notre quartet de couleurs et on va avoir aussi notre profil adapté qui est le profil que l'on met en jeu quand on est en relation avec l'environnement. Vous souhaitez que je détaille les couleurs, Paul ?
Oui.
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 Alors, là, par exemple...
Et que vous testiez sur nos invités.
Je vais le faire, je vais le faire. Jean-Pierre et Stéphane, c'est bon pour vous ?
Oui, oui.
Si je vous demande, Jean-Pierre et Stéphane, de penser à des objets du quotidien qui ont, allez, la couleur rouge. Alors, rouge, ça peut être camion de pompiers, extincteur, le logo d'IDFM, il y a une partie qui est rouge. Qu'est-ce que ça vous évoque comme caractéristique, le rouge ?
Le rouge, je sais pas, la violence.
La violence.
Ouais, le stop.
Le stop.
L'interdit. Ouais.
L'interdit.
Ouais.
Voilà. Alors oui, vous voyez cette couleur rouge, on est effectivement sur des caractéristiques très tranchées. Là, vous m'avez dit interdit. Tout à l'heure, quand on avait discuté, vous m'aviez dit le rouge, le sang. Vous m'aviez dit sanguin. Effectivement, les personnes qui ont un profil rouge assez développé sont des personnes qui vont être énormément tournées vers le résultat, vont être énormément tournées vers le défi. C'est des personnes, notamment en entreprise, ne surtout jamais leur dire chiche. Elles vont y aller. À partir du moment où effectivement il y a un enjeu et un challenge, la personne qui est rouge fonce. Alors, c'est un énorme avantage en entreprise. Vous imaginez, pour lever les challenges, il y a un petit bémol par rapport aux personnes rouges, c'est qu'effectivement, c'est des fonceurs, donc elles peuvent en arriver à oublier les autres. Voilà. Le vert, vous êtes plutôt sur des personnes qui ont un vrai sens de l'écologie, mais dans le sens humain, très soucieux des autres, qui vont vérifier que l'équilibre du groupe est toujours là et que tout va bien pour tout le monde. Les jaunes, soleil, sont des personnes solaires qui sont vraiment sociables. C'est votre collaborateur qui, en début de réunion, va demander, par exemple, à quelle heure est la pause, ou va faire la petite blagounette pour réchauffer l'ambiance. Voilà, dans une entreprise, c'est quelqu'un qui est au cœur de l'équipe et qui fait qu'effectivement l'équipe fonctionne merveilleusement bien. Et le bleu, vous le trouvez beaucoup dans des métiers qui demandent de la rigueur et de la précision. Le bleu, c'est la méthode. Les experts comptables, vous avez beaucoup de personnes qui sont bleues. Et le principe étant évidemment que nous sommes les quatre couleurs. Évidemment, nous avons une couleur qui est prédominante, mais nous avons tous les quatre couleurs.
Une dernière question, David. Votre plus belle réussite ?
Ma plus belle réussite, je dirais mes plus belles réussites, c'est les objectifs atteints de mes coachés, de mes stagiaires. C'est mes plus belles réussites.
Merci, David. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre actualité. Éventuellement, très rapidement, encore un mot de conclusion, où je peux conclure, messieurs ?
Je vous en prie, Paul.
Donc, merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre actualité. Vous serez toujours les bienvenus dans cette émission. Merci à Christophe pour la technique. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur idfm98.fr. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Bonne journée à tous. J'en profite pour vous souhaiter une très belle fin d'année, de bonnes fêtes à tous et à mes invités.
Merci Paul.
Bonne fête à tous.
Paul. Merci à toi.
Merci. Thank you.